Beaucoup de travailleurs disent « Vous nous demandez des efforts, mais il y a des gens qui ne travaillent jamais ». Ce sont les mots du président de la République Emmanuel Macron, qui lors de sa dernière interview télévisée véhiculait entre les lignes l'idée que beaucoup de Français seraient fainéants. Pourtant, un phénomène mal documenté jusqu'à il y a une dizaine d'années s'est installé en France, celui du présentéisme. Ce terme apparu dans les années 90 désignait d'abord les travailleurs qui en faisaient trop, puis ceux qui faisaient semblant de travailler. Aujourd'hui, il est utilisé pour désigner ceux qui, malades, continuent de travailler. L'alerte a été donnée en 2004 dans le journal L'Humanité par un médecin du syndicat national des professionnels de la santé au travail et qui observait ce phénomène dans le secteur de l'industrie, accentué, je cite, à l'époque avec la mise en place du flux tendu dans les entreprises. Puisqu'il s'agit d'un contournement, peu de statistiques sont disponibles. On peut quand même dire que dans le secteur sanitaire et social, un travailleur sur cinq aurait connu au moins un jour de présentéisme dans l'année passée. Dans le secteur privé, c'est un jour d'arrêt maladie sur quatre qui n'est pas pris. Alors quelles raisons poussent les personnes à continuer de travailler malgré la maladie? De quelle façon présentéisme et absentéisme sont-ils intrinsèquement liés? Quelle est la responsabilité de l'employeur et de la médecine du travail face à ce phénomène? Les politiques publiques accentuent-elles d'une manière ou d'une autre ce phénomène? Élément de réponse dans un instant, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui dans Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche universitaire, on reçoit Alain Villebrault, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes sociologue, professeur émérite de sociologie à l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale, et à l'été 2022, vous avez publié « Travailler en étant malade, enquête auprès de salariés du champ sanitaire et social, présentéiste et de médecins du travail », et ça a été publié aux éditions L'Harmattan. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David, bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de Colette, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et professeur de sciences politiques. Bonjour Christian.
Bonjour.
Colette, je vous laisse la parole.
Alain Villebrault, ce terme présentéisme, depuis quand l'utilise-t-on et que signifie-t-il?
On l'utilise en France depuis, on va dire, le début des années 1990. Il a connu un certain nombre de pérégrinations dans la définition même du terme. Pendant un certain temps, il définissait plutôt les hommes et les femmes qui, au travail, en faisaient trop, au risque, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, du burn-out. Puis, ceux qui, en quelque sorte, trompaient leur monde, c'est un peu le syndrome de la veste qu'on laisse devant son bureau et la lumière qu'on laisse dans son bureau alors qu'on va vaquer à d'autres occupations. C'était donc ceux qui, effectivement, tromper leur monde, oui, faisant semblant, en quelque sorte, d'être en hyperactivité alors qu'ils mettaient un peu du calme dans leur activité professionnelle. Alors, désormais, c'est plutôt, la définition, c'est les hommes et les femmes qui, au travail, sont malades, pourraient justifier d'un arrêt maladie, ont éventuellement un arrêt maladie qu'ils ne font pas valoir, et donc sont présents à leur travail avec quelquefois des situations étonnantes, puisqu'on va voir les uns et les autres qui ont un arrêt maladie, qui ont averti leur employeur, qui ont averti la caisse de sécurité sociale et qui pourtant vont au travail, là où on pourrait penser que leur responsable hiérarchique devrait les inviter prestement à retourner à leur domicile. On a des situations qui sont bien plus fréquentes qu'on pourrait le penser. On va dire que la définition, c'est plutôt donc celle-ci qui aujourd'hui tend à prévaloir, travailler en étant souffrant et en ayant sans doute bien d'autres choses raisonnablement à faire que d'aller vers le bureau, vers l'entreprise, etc.
Dans ce livre, vous vous êtes focalisé sur les aides-soignantes, les éducateurs, les aides à domicile. Pourquoi avez-vous choisi ces travailleuses et ces travailleurs particulièrement?
D'abord parce que c'est un monde que je connais, c'est-à-dire que depuis, on va dire, une trentaine d'années, je me penche sur ces professions du secteur social, médico-social, médical, et donc nombre de contacts déjà étaient facilités auprès des uns, des unes et des autres qui pouvaient ainsi, de manière relativement libre, expliquer les situations qui étaient les leurs et dialogué avec moi sur ces maladies qui les tourmentent ou les ont tourmentés, et sur le fait que malgré cela, ils sont rendus à leur travail. Alors, on sait aussi que ce sont évidemment des secteurs aujourd'hui en très forte tension, avec des conditions de travail très dégradées, et même s'ils n'ont pas l'exclusivité, on pourrait y revenir, puisqu'on va retrouver des situations de présentéisme dans d'autres secteurs, évidemment, il est, en tous les cas, ce présentéisme très fortement présent dans ces professions, qui de l'hôpital, qui des services d'aide à domicile, etc., avec, je l'ai dit, hein, des situations au travail qui, aujourd'hui, renvoient les uns et les autres à la peine.
Christian Lebar.
Oui, alors, on connaît tous, ce sera ma façon de rentrer dans le sujet, on connaît tous la notion d'absentéisme, qui donne lieu aussi bien des débats ordinaires Café du Commerce qu'à des polémiques politiques, hein, sur le mode, les Français ont-ils la valeur travail, etc. Bon, donc dénoncer l'absentéisme, c'est dénoncer le fait que les gens souhaitent travailler le moins possible, etc., etc. Et là, vous opérez, enfin vous et d'autres avec vous, hein, bien sûr, un retournement absolument passionnant, y compris en termes d'agenda, c'est-à-dire quel est le problème à traiter. Hein, le problème à traiter n'est pas de mettre les gens au travail, mais au contraire, de les réfréner dans une volonté excessive, abusive, de travailler. Alors ce retournement est évidemment sociologiquement très passionnant, et je dirais aussi politiquement très, très intéressant. La difficulté, bien sûr, et vous la posez d'entrée dans votre ouvrage, c'est la question de la quantification, enfin disons de l'objectivation d'une façon générale, parce que par hypothèse, le présentéisme a une dimension, une part d'invisibilité. Alors comment on fait quand on est sociologue, quand on travaille sur un objet à la consistance aussi problématique, disons?
C'est un angle mort que cette question du présentéisme, qui effectivement ne donne lieu à aucune déclaration, hein, d'évidence, et du coup on ne connaît pas très bien à quantifier en tous les cas ce qu'il en est de cette situation de présentéisme. Il n'y a pas de statistiques ou peu de statistiques disponibles. Il y a des grandes études de comparaison européenne, mais qui sont intéressantes, mais qui sont vraiment à un niveau très macro. Et on n'a pas d'autres solutions, entre guillemets, que d'aller plutôt vers des approches qu'on va dire qualitative, c'est-à-dire de proche en proche, d'aller à la rencontre des uns, des unes et des autres qui ont été ou sont en situation de présentéisme. On a quelques études pour ce qui concerne le secteur privé, via notamment la Caisse Médéric qui régulièrement pose la question aux uns et aux autres qui en sont affiliés. Pour ce qui concerne les travailleurs du public, et c'est notamment vers eux que je me suis tourné, là, on a un grand vide. Il y a quelques petits mois, des collègues ont organisé à l'Université de Nantes un colloque portant sur les questions de santé pour ce qui concerne les salariés du secteur public, et sans doute un titre un peu narquois, ils avaient retenu le fait que c'était des travailleurs immunisés, point d'interrogation, tant pour ce qui concerne leur état de santé, et on sait que les services de santé au travail dans le secteur public aujourd'hui sont vraiment à la peine. Hein, on n'a pas vraiment de chiffres. Donc on a une approche quantitative qui reste assez approximative, mais dans le détail, il faut aller y voir de près, en allant à la rencontre des uns, des unes et des autres, pour véritablement prendre la mesure des situations qui sont les leurs. Alors, une approche quantitative, on va dire que un travailleur sur cinq dans les secteurs que j'ai investis ont connu au moins un jour de présentéisme dans l'année passée. On va dire aussi que pour ce qui concerne les arrêts maladie, au moins dans le secteur privé, un jour d'arrêt maladie sur quatre n'a pas été pris. Donc on a une approche comme cela un petit peu assez approximative, mais qui donne quand même l'ampleur d'un phénomène qui a été très très peu investigué, très peu regardé, jusqu'à, on va dire, une petite douzaine, demi-douzaine d'années peut-être.
Hein. dans votre livre, vous parlez des salariés, vous parlez des employeurs et vous parlez de ceux et celles qui sont un peu, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire les médecins du travail. Oui. Donc on y reviendra, j'aimerais bien qu'on focalise maintenant sur les travailleurs et les travailleuses. Puisqu'on parle de absentéisme, présentéisme, c'est dans les hôpitaux publics que l'on constate le plus fort taux de présentéisme, mais aussi le plus fort taux d'absentéisme. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
L'un va avec l'autre, en quelque sorte, c'est-à-dire que, pour des raisons qu'on pourrait évoquer, ces hommes, ces femmes surtout, dans la mesure où j'ai plutôt été à m'adresser dans des métiers qui sont à connotation fortement féminine, je mets des guillemets, les unes et les autres vont quelquefois aller jusqu'au bout de leur capacité, jusqu'à jouer avec leur santé, jusqu'au moment où la corde casse. Et donc, le présentéisme annonce... l'absentéisme, je mets beaucoup de guillemets autour de ces mots-là, annonce en tous les cas l'arrêt de travail contraint et forcé, à court ou moyen terme. C'est sans doute pas un très bon choix que de se rendre au travail en étant souffrant, mais pour un certain nombre de raisons, les unes et les autres font ce choix, si tant est que ce soit un choix, on pourrait y revenir, font ce choix, mais à jouer ainsi avec leur santé, à un moment donné, ils risquent de payer le prix fort. D'où le fait qu'effectivement, il y a bien un lien entre présentéisme et puis, à un moment donné, arrêt, maladie, je dirais, contraint et forcé, compte tenu des souffrances physiques ou psychiques que les uns, les unes et les autres endurent jusqu'au moment où ils n'en peuvent plus.
C'est un mal dont souffrent de nombreux hôpitaux français, l'absentéisme. Infirmières, aides-soignants, agents administratifs et techniques, d'après le Figaro, en 2014, dans plusieurs établissements, le personnel non médical cumulait plus d'un mois d'arrêt maladie en moyenne. En tout, 21 établissements sont concernés. Dans tous ces hôpitaux, les agents non médicaux se sont arrêtés entre 30 et 34 jours, contre 23 dans le reste de la France. Pénibilité, surcharge de travail, vieillissement des patients et 35 heures, les raisons de ces arrêts seraient multiples.
Extrait d'un reportage du journal télévisé de France 2, diffusé en avril 2016.
Dans votre livre, c'est très intéressant, vous listez les multiples raisons de continuer à travailler alors qu'on a mal au dos, qu'on a mal aux épaules, qu'on est moitié ou complètement en dépression. Est-ce que parmi ces bonnes raisons, entre guillemets, une des premières, particulièrement pour ces métiers, est-ce que c'est l'altruisme, le dévouement et on se dévoue pour qui ?
Alors,
est-ce que c'est d'abord une des premières raisons ou pas, à votre avis ?
C'est une des raisons. Je serais pas vraiment très très formel, très très sûr de moi quant à dire que c'est la raison principale, mais c'est une des raisons effectivement. On ne va pas vers nombre de ces métiers par hasard. Et les uns et les autres sont porteurs d'un certain nombre de valeurs qui les poussent à s'engager fortement dans leur travail. Alors, sans doute ne faut-il pas généraliser. Et puis, à côté de ce fort engagement que les uns, les unes et les autres mettent véritablement en avant et mettent en œuvre véritablement, eh bien, on peut penser qu'il y a, pour d'autres personnes, des emplois qui se trouvent des emplois disponibles immédiatement, localement, etc., sans qu'il y ait pour autant grand engagement de leur part. Mais pour nombre de ces femmes, de ces hommes, choisir d'aller vers les métiers de l'aide à autrui, les métiers du soin, c'est aussi s'engager dans des activités où ils s'adonnent avec passion et où ils sont prêts, en tous les cas, quelquefois, à sacrifier leur santé compte tenu des valeurs dont ils sont les porteurs.
On voit l'attachement à la fois à l'équipe avec laquelle on travaille et à la fois les patients ou usagers qu'on côtoie tous les jours ou plusieurs fois par semaine. J'aimerais bien que vous développiez ça, ce côté aussi solidarité d'équipe.
Solidarité d'équipe, évidemment. C'est-à-dire que dans un contexte de forte tension au travail, avec des remplacements qui sont très aléatoires, avec des remplacements qui vont intervenir régulièrement au bout de 15 jours, 3 semaines, ou quelquefois pas, les uns, les unes et les autres se retrouvent en quelque sorte embarqués dans, la même, dans le même bateau, pour dire dans la même galère, et se révèlent solidaires. Les uns et des autres sans faille, très souvent. Donc il y a cette solidarité d'équipe, cette solidarité avec les collègues de travail qui pousse effectivement à mettre de côté en quelque sorte les tourments éprouvés, tourments physiques ou tourments psychiques, parce qu'on est dans une situation de telle tension que véritablement s'abstenir d'aller au travail, c'est envisager, y compris parce qu'on l'a connu soi-même, envisager tout ce que les difficultés que vont rencontrer du coup les uns et les autres.
Christian, sur ce thème.
Oui, on pense en vous lisant, ou j'ai pensé en vous lisant au monde des instituteurs et des institutrices, où il y a effectivement aussi beaucoup de présentéisme, parce que si l'instituteur ou l'institutrice ne se présente pas le matin, la classe, ses élèves iront dans la classe du collègue, et c'est évidemment une charge pour la personne. Le travail est fait par quelqu'un d'autre, et ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas abuser dans des petits collectifs de travail où l'estime des collègues proches est assez fondamentale.
Bien sûr, bien sûr.
Et aussi, ce que vous écrivez dans le livre, cette notion de don contre don. X m'a dépanné il y a 2 mois, je ne peux pas le laisser en plan avec double charge pendant X jours et tout.
Bien sûr, le don appelle le contre-don, et donc on sait très bien que les tâches que l'on va laisser à ses collègues, ces collègues-là se rappelleront un jour aussi à leur bon souvenir en quelque sorte.
C'est inégalement vrai, il y a des métiers où c'est pas vrai.
En tous les cas, dans ces métiers-là, je pense que c'est très, très fortement...
Je pense que c'est une variable absolument décisive pour comprendre la distribution du présentéisme.
Je peux me permettre une citation ?
Bien sûr, bien sûr.
Alors, est-ce que j'ai pensé à mes collègues ou j'ai plutôt pensé à ce qu'on pourrait penser de moi ? En fait, c'est moi qui ne me suis pas autorisé. Je pense que je ne me suis pas autorisé à ce moment-là. Franchement, j'ai été prise par une folle. Chez moi, mon mari m'a dit « t'es complètement cinglé ». Après, on pense aux collègues. On ne prend pas d'arrêt parce qu'on a peur déjà du retour des collègues qui vont dire « Ouais, j'ai été obligé de venir bosser à cause de toi ». Il y a de ça aussi, il ne faut pas se leurrer. Il y a le côté, on n'a pas envie de laisser ses collègues dans la merde. Mais certains disent « J'ai été obligé de revenir. Toi, tu as un médecin qui te donne des arrêts facilement ». On entend des choses comme ça. C'est là le côté un peu fourbe de l'histoire. C'est que les collègues encouragent en disant « Mais rentre chez toi, t'es pas bien, tu devrais être chez toi ». Et puis d'un autre côté, c'est « Il ne faudrait pas que ce soit moi qui vienne travailler ». Il y a donc cette ambiguïté, ce don contre don que l'on rencontre régulièrement dans ces situations. Donc la solidarité avec les collègues n'est pas dénuée d'une certaine ambiguïté, on va dire. Voilà.
Sans parler des questions de revenus, de crainte de perte d'emploi. Et de prime, etc., qui vous fait basculer dans
tout
le...
Tout à fait.
Autre raison de continuer à travailler.
Il y a la perte de revenus. Il y a la perte de revenus liée aux jours de carence. C'est un jour dans la fonction publique. Dans le privé, c'est 3 jours. Mais dans nombre de situations que j'ai rencontrées, les caisses, les mutuelles, etc., amortissaient en quelque sorte ce choc. Et donc, finalement, l'impression qui préside, c'est que, de ce point de vue-là, les travailleurs du public sont moins bien lotis que nombre de travailleurs du privé, je dis bien dans les domaines que j'ai investigués, c'est-à-dire le champ plutôt sanitaire et social, y compris d'initiatives privées. Donc, il y a la perte de revenus, assurément. Et c'est pas rien quand des revenus sont déjà extrêmement réduits.
Dans ces secteurs-là, oui.
Parce que, éventuellement, c'est aussi des temps partiels obligés, notamment dans les services d'aide à domicile. Eh bien, perdre 1, 2, 3 journées de travail, c'est quelque chose qui est douloureux, on va dire comme cela, qui pèse sur le budget du ménage. Mais il y a bien d'autres éléments qui entrent en ligne de compte dans cette question du revenu. C'est que être malade, c'est le risque de se voir mettre en invalidité, en longue maladie ou en retraite anticipée, ne plus être considérée comme étant intéressante, entre guillemets, pour l'employeur, et du coup, de rester au travail, demeurer au travail malgré tout, c'est aussi ce spectre-là. Être en invalidité, c'est un revenu de 600 à 700 euros par mois. Et les mises en retraite anticipées, c'est aussi de cet ordre-là. Donc il y a certes la perte de revenus immédiate, je dirais, hein, avec les jours de carence, mais au-delà de ça, c'est le spectre un peu des mesures qui risquent d'être prises et du fait qu'on risque d'être mis de côté, sans compter évidemment tous celles et tous ceux qui sont contractuels. Et quand on regarde aujourd'hui la part de contractuels dans les hôpitaux, on est au cinquième, au quart, au tiers, quelquefois, dans les hôpitaux locaux, de contractuels. Alors, ce personnel-là, ces hommes, ces femmes surtout, évitent à tout coup aussi de prendre un arrêt, de crainte, légitime ou pas, de ne pas être renouvelés dans leur contrat de travail. Oui. Et donc, c'est aussi affaire bel et bien de revenus. On n'est plus dans la question même des jours de carence, hein, mais vrai. On est dans la crainte de ne plus voir son contrat renouvelé. Or, aujourd'hui, c'est extrêmement fréquent dans nombre de services, notamment hospitaliers, que ce statut-là, avec des contrats qui sont de 2 mois, puis 15 jours ou une semaine avant, on va apprendre qu'on est renouvelé pour 2 mois ou pour 1 mois, sans savoir ce qu'il en est. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, on prend sur soi et on va au travail. D'où d'ailleurs des médecins du travail qui me glissaient que dès lors que les uns et les autres voyaient leur statut modifié, devenaient stagiaires 1 an, puis devenaient titulaires, eh bien, ils révélaient à ce moment-là un certain nombre de tourments, un certain nombre de maladies, qu'ils se gardaient bien de mettre en avant auparavant, de peur de ne pas voir leur contrat renouvelé. On est toujours dans la question de la perte de revenus.
Et c'est aussi, toujours en reprenant votre livre, la crainte de ne pas obtenir un avancement, ou d'être obligé par le patron ou le chef de service de changer de poste alors qu'on aime bien son poste et tout.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que dans nombre d'emplois, il y a des systèmes de primes qui sont indexés, notamment à la question de l'absentéisme. Et qui entravent l'avancement dans la carrière, qui entravent la promotion, et qui font que les uns et les autres sont aussi, de ce point de vue-là, à faire montre de présentéisme pour ne pas hypothéquer cet avancement promis ou cette promotion attendue, etc.
Christian ?
Alors, il y a aussi une autre variable que vous mettez très très bien en valeur. Alors peut-être on ne l'a pas dit encore, mais le livre est vraiment très nourri des entretiens que vous citez très, très longuement, comme vous venez de faire au micro, et ça lui donne une chair, une épaisseur et une dimension très, pas seulement analytique et dissertative, mais aussi vraiment très, très illustrée, et ça c'est passionnant. Et alors ce qu'on voit bien, ce que je voulais dire, on voit aussi le poids de ce qu'on pourrait appeler les modèles d'exemplarité qui définissent le bon salarié irréprochable. C'est pour ça que vous avez raison de dire que c'est pas uniquement un calcul de rationalité, j'y vais pas. C'est aussi, on est pris dans des... On est aussi socialisé à s'accomplir par le travail, etc. Toutes ces choses-là. La valeur travail, comme je disais tout à l'heure. Et alors, vous êtes assez discret sur les questions de genre, mais est-ce qu'on peut aussi faire l'hypothèse qu'il y a un présentéisme plus fort chez les hommes qui seraient particulièrement habités par l'idée qu'ils résistent à la maladie, que la maladie c'est pas pour eux, même pas mal, etc. Ou est-ce que ça c'est un peu derrière nous ?
Bien sûr. Alors, il se trouve que dans les métiers sur lesquels c'est plutôt des femmes, je me suis penché, c'est beaucoup de femmes. Mais assurément, du côté des hommes, il y a d'abord un certain rapport à la maladie font, mais là c'est les portes ouvertes, que les hommes sont moins attentifs à leur santé que les femmes, vont moins régulièrement chez le médecin, etc. D'autant plus fortement quand il s'agit d'hommes des milieux populaires, pour qui aussi, effectivement, résister, tenir le coup, aller au travail en étant souffrant, montrer qu'on sait prendre le dessus, toutes ces valeurs-là, on les croise aussi dans ces métiers du secteur sanitaire et social. Oui, assurément. Donc la variable genre joue à plein sur nombre de niveaux. Mais voilà, je me suis penché surtout sur ces femmes, et on va dire que, grosso modo, il n'y a pas d'écart considérable dans les raisons qui poussent les uns, les unes et les autres à aller au travail en étant souffrant.
Mais vous êtes d'accord que si on travaillait sur le bâtiment, par exemple, on aurait là des choses personnelles?
Bien sûr, bien sûr. Au même moment, ou quasi... comme quoi c'est quand même une question d'actualité. Trois autres chercheuses en l'occurrence, ont mené des études, notamment sur les métiers du bâtiment, et on retrouve effectivement ces tendances-là très 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 fortes. C'est un bouquin qui est paru chez RS qui s'appelle « Santé et travail dans les TPE, des douleurs passées sous silence ». Mmh. Eh bien, ce travail, ces deux sociologues, Émilie Legrand et Fanny Darbus, se sont penchés sur des métiers, les métiers de la petite restauration, les métiers du bâtiment, où là, assurément, on croise beaucoup d'hommes. Et les bricolages, entre guillemets, auxquels les uns et les autres s'adonnent, se superposent assez à ce que moi j'ai pu observer dans le secteur sanitaire et social.
On fait une pause musicale. C'est le collectif La Souterraine qui nous interprète « Travailleuse de nuit, la marche des éléphants ».
Voilà maintenant 3 mois que je bosse de nuit, 21h, 7h, 15 nuits par mois. Et j'ai vraiment du mal à m'y faire. On vient de me reconduire mon contrat pour 5 mois, ce qui est très bien pour des raisons financières, mais je me demande dans quel état je vais finir. Je suis épuisée, je cherche, je ferme mes volets à 8h30 le matin, j'ai l'impression de gâcher mes journées, et pourtant, il faut bien dormir. Je ne fais plus de photos, je ne vois plus personne, je dors et je vais au boulot, et voilà, je suis si fatiguée.
Salut à toi Karen. Moi aussi je bosse de nuit mais seulement 2 fois par semaine, donc je change de rythme sans arrêt et je sais de quoi tu parles. J'ai eu ce problème. En effet, tout est question d'organisation. Peut-être peux-tu t'aider avec une cure de vitamines.
Bonjour à toutes les filles qui travaillent de nuit avouent qu'elles ont mis plusieurs mois, voire une année entière à s'y faire. La fatigue est de toute façon plus grande car l'être humain n'est pas fait pour vivre la nuit à la base. Nous sommes des animaux diurnes. J'ai rencontré aussi un souci par rapport au repas. Je ne mange quasiment jamais quand je fais des nuits. Courage à toi, Karen. Tu vas finir par trouver ton rythme. Sinon, ma foi, tu peux toujours chercher un boulot le jour. Faut pas que tu te bousilles la santé non plus.
Bonsoir. Bien contente de trouver vos témoignages en tant que travailleur de nuit. Je suis réceptionniste de nuit depuis 4 ans. Et comme vous, le rythme est un peu particulier. Je vis en décalage et surtout, j'ai peu de reconnaissance sociale autre que la compassion, le mépris ou l'indifférence.
Alors les filles, ça fait un choc de quitter le cocon familial et de s'assumer toute seule, hein? Karen, tu t'y feras avec le temps.
Moi, j'ai pas tenu le coup. Je mangeais plus, j'ai perdu 6 kilos en 2 mois.
C'est bien ça. Je savais pas que des femmes pouvaient faire un travail d'agent de sécurité. Profite tant que tu n'as pas d'enfant.
Moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont faits pour bosser de nuit et d'autres non.
Si la première année, tu prends pas de poids, tu en prendras pas beaucoup après. À partir d'une certaine heure, je me force à ne plus manger. Bonjour les kilos sinon.
Bonjour à tous. Actuellement, 2e année du BTS diététique, j'étudie en ce moment l'alimentation des travailleurs de nuit. Pouvez-vous répondre à ce questionnaire si vous travaillez de nuit? Merci d'avance, cela m'aiderait beaucoup. Bonne journée.
Je fais 1, 2, 1, 2, je fais. patrons, pour de grands patrons, pour un grand patron.
Écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être en ligne sur canalb.fr, et vous êtes dans Chercheurs en ville, une émission consacrée à la recherche universitaire. Aujourd'hui, on reçoit Alain Villebrault, il est sociologue, professeur émérite de sociologie à l'Université de Bretagne Occidentale, et en août 2022, il a publié aux éditions L'Harmattan « Travailler en étant malade, enquête auprès de salariés du champ sanitaire et social présentéiste et de médecins du travail ». En première partie, on a défini le présentéisme et la difficulté d'avoir des chiffres sur le sujet. Il a ensuite été question des raisons qui poussent les travailleurs malades à continuer de bosser, raisons qu'on continue d'explorer tout de suite, avec un questionnement sur le rôle des employeurs et de la médecine du travail face à ce phénomène.
Alain Villebrault, parmi les nombreuses raisons de continuer à travailler quand on est malade physiquement ou psychiquement, il y a celle, tout simplement, on aime son travail. Et là, en parlant des travailleurs sociaux et du champ sanitaire et social, vu de l'extérieur, ça peut sembler parfois des tâches très fatigantes, très difficiles sur le plan de l'émotion et de la charge mentale. Mais c'est gratifiant. C'est eux et elles qui le disent.
On va dire que le plaisir pris au travail ne concerne pas, loin s'en faut, que les professions qu'on dirait en vue, entre guillemets. Et dans les témoignages que j'ai recueillis, nombre d'entre eux renvoient effectivement à ce plaisir pris, là où spontanément on ne l'attendrait pas. Et cela va donc effectivement de l'accomplissement de tâches réputées ingrates, en tous les cas a priori fort peu courues, et qui pourtant mobilisent mes nombre de travaux qui sont penchés sur les métiers de service, les métiers du nettoyage, etc., qui mobilisent pourtant des qualités, qui mobilisent pourtant des ingéniosités méconnues, ou en tous les cas, fort peu reconnues. Alors, je dirais, point de naïveté, point d'enjolivure, on va dire comme cela. Les salariés que j'ai rencontrés, ne posent pas tant s'en faut toutes ce qu'ils mettent en œuvre, tout ce qu'ils accomplissent sans ces termes, mais dans ces métiers-là, se mêlent régulièrement, la passion et le ressentiment de ne pas être reconnu, la fougue, assurément, mais aussi la lassitude, en tous les cas, des contrastes forts et des oscillations à la mesure, il faut bien le dire, d'une reconnaissance en pointillé dans tous les engagements dont ils font montre. Donc oui, à regarder, à étudier, à se faire un petit sourire, comme un certain nombre de collègues ont pu le faire dans les métiers de service, dans ces métiers a priori peu courus, en tout cas aujourd'hui recherchés, puisqu'on en manque beaucoup, je pense au métier d'aide à domicile, par exemple. Les ingéniosités, je le répète, que les uns et les autres, les unes et les autres font montre, sont assez remarquables, et le plaisir pris au travail n'est pas un vain mot. Et quand on échange avec les unes et les autres dans les relations qu'ils mettent en œuvre avec, par exemple, les vieilles personnes, dans toutes les bricolages, dans toutes les manœuvres, un peu, les petites et grandes manœuvres qu'ils mettent en œuvre, ressort véritablement du plaisir là où on ne l'attendrait pas.
Christian Lebar.
Est-ce que derrière ce plaisir, il n'y a pas aussi le plaisir de se penser en tant qu'irremplaçable, l'idée que si je n'y vais pas, personne ne peut faire ce que je fais à ma place ou aussi bien que moi.
Voilà. Je mettrai entre guillemets la question du plaisir, mais oui, assurément. C'est-à-dire que compte tenu d'une relation qui quelquefois peut durer sur plusieurs années, qui auprès d'une personne âgée à domicile, par exemple, hein, on a le sentiment que dès lors que on va être absente, qui va prendre la suite? Saura-t-elle s'y prendre? Ces interconnaissances nouées au fil des mois ou même des années, la crainte, c'est effectivement la rupture et l'inconfort chez cette personne qui ne va plus retrouver ses habitudes, va plus retrouver ses marques. Mmh. Oui, assurément, assurément.
Dernier volet peut-être de toutes ces raisons, peut-être le moins évident, des hommes et des femmes continuent à travailler parce qu'ils n'ont pas envie ou ils craignent, il y a de l'angoisse, il y a de l'ennui à rester chez soi. Et est-ce que sur ce thème de « je ne veux pas rester à la maison », est-ce qu'il y a une différence d'approche entre les hommes et les femmes ?
On va entendre volontiers des hommes dire que pour eux, rester à la maison, c'est synonyme d'ennui, qu'ils ne sont pas à leur place, qu'ils tournent en rond, qu'ils se sentent enfermés à rien faire. L'espace domestique n'est pas forcément leur domaine et ils ne se retrouvent effectivement pas nécessairement. Je l'ai dit, on ne doit pas oublier non plus le rapport heurté à la médecine à la maladie. Mais assurément, oui, du côté des hommes, cela joue. Du côté des femmes, tout autant. Mais possiblement, rester chez soi, c'est retrouver peut-être ce qu'on a voulu fuir. C'est être confronté à la solitude, notamment quand les enfants sont partis, connaît le veuvage ou quand on connaît le divorce. Et envisager de rester claquemuré n'est pas nécessairement quelque chose qui est très prisé, puisque la vie est ailleurs. Les collègues de travail peuvent être aussi des amis, des copines, entre guillemets, avec lesquels on fait des plans, avec lesquels on se soude, avec lesquels on va éventuellement lutter, avec lesquels on va compter finalement les uns les unes sur les autres. Et entre le travail qui est fortement pourvoyeur de liens et pourvoyeur d'identité, et puis l'isolement entre quatre murs, il n'y a guère véritablement à tergiverser. Et du coup, on se dit que les mots, M-A-U-X, les mots dont on souffre, ils finiront bien par passer. Et chez nombre de femmes, en tous les cas, le retour au travail rapide, malgré des douleurs persistantes, une fois pesé le pour et le contre, une fois envisagé ce que ça signifierait que d'être en arrêt, eh bien, la décision est de prendre sur soi et de continuer à travailler en espérant finalement que les douleurs soient tenables et finissent par s'estomper. Ça passera bien.
On a souvent entendu, que ce soit des hommes ou des femmes confrontés à un deuil, aussi à des moments de conflit, voire de violence dans un couple, ou de grand chagrin, ou avec les enfants, dire aller au travail, ça me fait du bien. Quoi. Ça me restructure, ça me béquille, etc.
Bien sûr, on ne dira jamais assez en quoi, pour nombre de ces femmes que j'ai rencontrées, le travail est fortement investi, notamment parce qu'il est pourvoyeur d'identité, assurément, oui.
Y compris par rapport à la maladie.
Bien sûr, bien sûr. Et puis on n'oubliera pas qu'on est dans des métiers du soin, au sens large du terme, où on se dit qu'il y en a qui sont bien plus malheureux que nous. On côtoie la souffrance au jour le jour, et finalement, la nôtre, à côté de cela, c'est surmontable.
Dans votre livre aussi, à un moment, peut-être pour des aides-soignantes ou des infirmières, je ne sais plus, Vous étonnez de la dureté, y compris bien sûr physique, de la tâche. Et quelqu'un dit, mais avant je travaillais dans l'agroalimentaire et c'était pire. Donc le soin est entre guillemets moins pire, moins fatigant, moins...
Nombre de femmes que j'ai croisées, notamment dans les métiers d'aide à domicile, sont pas des jeunes femmes. Elles ont eu l'occasion de travailler qui dans l'agroalimentaire, qui, dans la région de Brest, là où j'enseigne, dans les serres, notamment voilà, les serres de tomates, etc., et ont connu des conditions de travail très éprouvantes. Et elle s'étonne presque qu'à côté d'elle, d'autres se plaignent alors que c'était leur lot quotidien, que toutes ces souffrances physiques qu'elles ont endurées. Donc ça joue aussi dans le fait qu'elles estiment qu'il faut passer sur les douleurs ressenties et aller au travail, oui, assurément.
Aller au travail, est-ce que c'est aussi une incitation? Là, on va passer peut-être sur le versant des patrons, que ce soit les employeurs ou la hiérarchie intermédiaire, les cadres. Est-ce que les salariés sont incités de manière plus ou moins implicite, explicite, à continuer à bosser alors que ça ne va pas?
Nombre de cadres que j'ai rencontrés sont dans des positions intermédiaires et d'intermédiaires. Ils ne sont pas véritablement des employeurs. Et donc, la lourde charge qui leur revient, pour nombre d'entre eux, c'est gérer les plannings. Et donc, de trouver nombre d'arguments pour s'assurer que la continuité de l'activité, notamment de l'activité de soins, soit effective. Et donc, ils peuvent être effectivement passés maîtres, en quelque sorte, dans toutes sortes d'arguments pour que les unes et les autres, les uns et les autres, prennent sur eux. Oui, on n'oubliera pas qu'eux-mêmes, cadres, sont les, je dirais pas les premières, mais sont aussi très touchés par cette question du présentéisme. Mais assurément, avec mes collègues juristes de l'Université de Bretagne-Sud et qui on a entamé aussi un certain nombre de collaborations sur ce thème du présentéisme, le souligne, quelquefois c'est un petit peu limite puisqu'on a des cadres qui vont solliciter les uns, les unes et les autres en fonction de leur situation familiale, par exemple parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à une femme qui n'a plus d'enfants à charge ou parce qu'ils ont affaire à une femme qui est célibataire. Et donc là, c'est effectivement un peu limite en matière de droit que de faire entrer en ligne de compte ce type de variable entre guillemets. Sure. Mais en même temps, ils se retrouvent eux dans de bien mauvaises postures et du coup, c'est la litanie des rappels sur congé. Mais cette spirale-là, un jour, elle va céder puisque les uns et les autres qui ne peuvent plus se reposer, qui sont rappelés sur congé, vont un jour ne plus en pouvoir. J'ai des témoignages ainsi de femmes qui, quand ils sont en congé de récupération, font appel à leur propre mère pour garder leurs enfants, donc à la grand-mère, en disant ben, « je suis en congé, mais de toute façon, je vais être rappelé ». Donc, elles ont complètement intégré le fait que ces congés ne seront pas effectifs. Et du coup, l'épuisement à la tâche, l'épuisement au travail, là, c'est bel et bien une réalité que l'on connaît. Les travaux qui ont été menés sur les conditions de travail à l'hôpital ou les émissions encore, il n'y a pas longtemps, à la télévision sur la situation dans les hôpitaux, elles se rappellent là fortement dans ce que les uns et les autres peuvent déclarer.
Mais ça, c'est quand même très particulier à ce secteur d'activité, à ces métiers. Le rappel sur congé, il n'y a pas non plus 50 000 métiers où on vous rappelle sur congé.
Tout à fait. Alors avec des petites stratégies, mais éventées depuis longtemps, de ne pas donner le numéro de portable,
bon numéro
dire à son gamin de ne pas décrocher quand c'était le numéro. Bon, c'est un peu des bouteilles à l'encre. Je crois que c'est pas vraiment comme ça que les choses se passent. Les unes et les autres ont intégré de toute façon le fait qu'elles n'y échapperont pas d'une certaine manière à bien des égards.
Christian Lebar.
Oui, alors je voulais poser une question un peu historique. Est-ce que vous iriez, sur la base du diagnostic très, très, très précis et très contemporain que vous faites, jusqu'à souscrire aux thèses de brutalisation, alors je veux dire du capitalisme, de l'appareil de production, alors au sens très large, puisque là on est quand même sur du Caire et donc on n'est pas au cœur du capitalisme, encore que, autour d'une espèce de remontée en force de la valeur travail, enfin dénonciation de l'absentéisme, la France pays de feignants, etc. Est-ce qu'on peut considérer que ces 30 dernières années, le sarkozysme ayant été par exemple peut-être un moment important là-dedans, l'incitation au présentéisme n'a jamais été aussi fort, ou bien est-ce qu'on n'en sait rien?
Bah, on n'en sait rien dans la mesure où ce thème-là du présentéisme n'a pas été véritablement exploré, n'a pas été étudié jusqu'à il y a quelques petites années. Donc, bien malin celui qui pourrait avancer de ce point de vue-là des comparaisons avec la situation telle qu'elle a pu être il y a 10 ou 15 ans.
C'est sûr, il y a quand même un air du temps.
Mais c'est sûr que aujourd'hui, les pressions budgétaires et la fameuse T2A, effectivement, renvoient au mandat de notre président Sarkozy, n'a pas arrangé les choses, clairement. Clairement.
Alors cette tarification à l'acte, hein, on le rappelle, il s'agit pour les hôpitaux d'être rémunérés en fonction du nombre d'actes et du type d'activités qui sont délivrées d'une certaine manière. Frédéric Valletoux, on le voit, ça partait pas d'une mauvaise intention au départ.
Mais non, ça partait même d'une bonne intention parce que ça permettait de sortir de cette dotation globale où on donnait de l'argent dans une totale impasse, selon que le président de l'hôpital avait un poids politique important, qu'il était proche du ministre ou du gouvernement, selon la situation acquise, et quand on était un gros CHU, on avait plus de chances, effectivement, globalement et proportionnellement, d'avoir des budgets plus confortables que des petits hôpitaux.
Donc c'était plus rationnel et plus juste.
Et donc là, on a mis en face un système de financement en face de l'activité. Voilà, vous réalisez des actes, vous avez une activité soutenue, le système de financement, finalement, devait accompagner ce développement de l'activité. Au contraire, vous avez une activité déclinante, écoutez, il n'y a pas de raison à ce moment-là que vous soyez toujours doté plus si votre activité décline.
Vous venez d'entendre un extrait de l'émission Un monde en doc, diffusé sur Public Sénat en janvier 2019, avec la voix de Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France.
Maintenant, on manque de données véritablement, et ce n'est pas du côté des caisses d'assurance maladie qu'on peut attendre véritablement de grandes initiatives en la matière, donc on manque de données comparatives. Mais que les conditions de travail aujourd'hui se soient dégradées depuis une quinzaine d'années, ce que les uns et les autres me rapportent, ça c'est un fait incontestable.
Ce qui est passionnant, c'est l'effet de ciseau. C'est-à-dire, il y a à la fois une dégradation objective des conditions de travail et une montée en force des valeurs liées au travail. Donc tout incite les gens à faire du présentéisme, en fait.
Oui, mais l'engagement au travail, les valeurs portées par les uns, les unes et les autres, c'est pas quelque chose de très, très nouveau. Hein. Donc, de ce point de vue-là, je serais bien en peine aussi de dire en quoi est-ce que ce phénomène-là, on connaît mal, on le connaît mal de toute façon, hein, on le connaît mal, les premiers chiffres, je vous l'ai dit, il y a une petite dizaine d'années qu'on commence à mesurer et qu'on est surpris par l'ampleur du phénomène, par un certain nombre de variables explicatives de ce phénomène du présentéisme.
Sur une profession, je parlais des instituteurs, des institutrices tout à l'heure, on ne peut pas par exemple prendre en valeur absolue le nombre d'arrêts de travail ?
Non.
Non ?
Non. Non, 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 non. Je pense que on est bien loin, à mon avis, du côté des enseignants, de ce que peut être aujourd'hui le présentéisme dans les métiers de l'aide à domicile, dans les métiers des salariés des EHPAD, dans les métiers des salariés des hôpitaux. On en est, je crois, bien, bien loin. Certes, on entend ici et là des difficultés de remplacement. C'est d'actualité ces dernières semaines, ici et là, et en Bretagne notamment. Mais je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il en est. Quand il manque en France aujourd'hui 4 000 kinés dans les hôpitaux, on pressent bien en quoi ? Est-ce que ceux qui, encore aujourd'hui, répondent présents, ou plutôt répondent présentes, sont très, très sollicités ? Et dans mon ouvrage, il y a notamment un témoignage de cette femme qui, avec une sclérose en plaques, continue à travailler et dit « Mais moi, j'ai connu un tel, elle est partie, j'ai connu un tel, il s'est installé en libéral, j'ai connu un autre, mais il n'est pas resté longtemps, et là, je suis tout seul. » Eh bien, elle prend sur elle. Et malgré les risques de crise, eh ben, elle continue à assurer son service tant bien que mal.
Est-ce que vous avez noté au fil de vos entretiens et de vos lectures, de vos recherches, une différence d'approche au travail entre, pour faire court, les jeunes et les vieux salariés ?
Alors,
ou pas ?
Les jeunes sont-ils feignants ?
Oui, J'entends de la part d'un certain nombre de cadres le syndrome du portable et le fait que les uns et les autres vont prestement assurer la tâche de nettoyage du lit à faire, etc., de la douche à donner, pour ensuite se réfugier dans un coin. Bon, j'entends un certain nombre de ces propos-là. Il faudrait les rapporter aussi aux conditions de travail et au type de contrat, etc., que l'on offre à ces jeunes. Mais pour le reste, je serais prudent pour ce qui concerne une approche générationnelle. C'est-à-dire que je n'ai pas, moi, mais avec toutes les prudences d'une approche qui nécessairement est qualitative, je n'ai pas, moi, d'assurance quant à penser que ce serait plus affaire de salariés ayant de l'ancienneté ou de jeunes. Ce qui est notable, c'est que les jeunes, plus que ceux qui sont en poste, sont sur des situations régulièrement de contrats précaires. Et donc, je renvoie à ce que j'ai dit sur les craintes des uns et des autres.
Et contrats précaires, et du coup aussi peut-être moins travaillés par le registre vocationnel. C'est-à-dire, ce que vous montrez bien aussi, c'est que dans les entrants des jeunes générations, on a beaucoup de gens qui sont un peu là parce qu'ils...
Notamment.
Et donc ça pourrait expliquer notamment aussi un attachement moindre.
Non, je serais là aussi extrêmement prudent. Il se trouve que pendant nombre d'années, je me suis penché sur un métier particulier, qui est le métier d'éducateur spécialisé. Et j'ai suivi génération après génération, à 20 ans d'intervalle, les uns et les autres qui s'y engagent dans ce type de métier. Eh bien, je serais très prudent sur les approches générationnelles, même s'il y a les discours des anciens vis-à-vis des jeunes en disant « ils n'y croient plus, ils ne s'investissent plus », etc. Et à l'inverse, les jeunes qui pensent que ces anciens-là, aujourd'hui, la flamme est éteinte. Donc là encore, je serais mesuré dans le fait de penser que c'est affaire de génération. C'est bien plus complexe que cela.
Est-ce que vous êtes aussi mesuré concernant le rôle difficile, voire impossible, des médecins du travail pris entre, est-ce qu'on peut caricaturer à ce point-là, oui, entre les salariés et les employeurs, sachant qu'il y a beaucoup de méfiance, les employeurs vis-à-vis des médecins du travail, mais aussi parfois beaucoup de méfiance de la part des salariés vis-à-vis du médecin du travail. Qu'est-ce qu'il peut faire, le médecin du travail, quand il voit des gens qui vraiment devraient s'arrêter, qui continuent à bosser ?
Je me permets une citation. Ce qu'on a beaucoup, c'est des gens qui reviennent quand ils arrivent avec un demi-salaire et qu'ils veulent à tout prix reprendre. Alors que de toute évidence, au niveau santé, c'est impossible. Ils arrivent, ils boitent, ils ne tiennent pas debout. Donc au bout de quelques mois d'arrêt, ça on l'a souvent. De toute évidence, c'est impossible. Ils ne tiendront pas un quart de journée. À la fin, on leur dit « mais ce n'est pas raisonnable, mais c'est pour des raisons financières ». Ils me disent « oui ». Donc je dis « bah, je comprends, mais après, vous savez, votre corps, il ne va pas suivre ». Les médecins du travail, c'est un métier passionnant, c'est un métier très peu recherché. Il arrive en toute fin de liste pour ce qui concerne les épreuves classantes. Donc, on croise surtout des hommes et des femmes surtout, qui sont en fin de carrière. Et
c'est pas un métier qu'on choisit d'emblée.
C'est pas un métier qu'on choisit d'emblée. Oui, en milieu ou en fin de carrière. Oui, absolument, absolument. Et puis aussi, j'ai fait le tour de tous les services de santé au travail du secteur privé, d'accord, de France, et que les noms de famille renvoient aussi à la très forte présence de médecins étrangers, qui sans doute, pour X raisons, ne peuvent pas se lancer, qui dans une carrière hospitalière, qui dans le libéral, compte tenu d'une maîtrise qui n'est pas toujours peut-être des savoir-faire de la pratique libérale. Donc c'est un métier extrêmement passionnant, c'est un métier d'entre-deux, et là, ils sont effectivement là aussi en grande difficulté. Hein, par rapport à des situations de santé. Ils ne sont pas quelquefois les derniers, d'ailleurs, à conseiller à tel ou tel des travailleurs qui viennent les voir de prendre un peu sur eux, parce que sinon, il y a des risques qui de rupture de contrat, qui de contrat non renouvelé, etc. Donc, ils sont véritablement dans une situation, c'est un métier extrêmement passionnant, hein, dans une situation très, très difficile. Ils ont de moins en moins de temps, en principe, c'est un tiers-temps pour aller dans les entreprises. Ils passent leur temps beaucoup à démêler des situations inextricables de salariés. C'est un métier où ils s'adaptent donne très souvent avec force, passion, à arrondir les angles, entre guillemets,
sans doute,
au risque d'être instrumentalisé d'ailleurs parfois, hein, mais pour tenter de trouver un compromis en termes notamment d'aménagement du poste de travail, d'emploi du temps compatible avec les tâches attendues, etc. Donc c'est un métier qui demande beaucoup de finesse finalement, hein, de savoir-faire dans les interactions, évidemment auprès des salariés, et on ne peut plus aussi auprès des employeurs. Et ils développent en la matière un rare savoir-faire qui est aussi peu reconnu, peu parlé en tous les cas.
Dans votre livre, des médecins du travail disent leur position vraiment complexe. Ils doivent avoir des fins de journée parfois difficiles quand un cadre ou un chef d'entreprise vient les voir en disant « Vous ne voulez pas rencontrer Monsieur X ou Madame parce que Monsieur X ou Madame Machin a un problème de santé. » Et le médecin du travail dit « Non, en fait, quand je l'ai vu, c'était pas un problème de santé, c'est que Monsieur X ou Madame Machin, à ce moment-là, ne peut plus suivre la cadence. »
Bien sûr, bien
sûr. Il n'y a pas de problème de santé réel, mais...
Bien sûr, les médecins du travail sont très, très regardants sur la déontologie, ils ont une forte éthique. Ils exigent de toute façon, avant de voir un salarié, que le salarié soit prévenu que c'est à la demande de l'employeur, par exemple, et que l'employeur doit expliquer les raisons pour lesquelles il adresse ce salarié au médecin du travail. Donc ils sont très pointilleux sur un certain nombre de règles déontologiques qui, pour eux, vont de soi.
Monsieur Villebrault, hélas, hélas, on arrive au terme de cette émission. On vous remercie infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, « Travailler en étant malade ». Aux éditions L'Harmattan. L'ouvrage coûte 24 €. Merci à Lucie Louapre, notre réalisatrice. Merci à Christian Lebar. Et à bientôt pour la prochaine émission de Chercheurs en ville sur Canal B.